RCF.
Catholique et société, avec Yann Lecoz, le regard d'un catholique aujourd'hui face aux multiples défis de son temps.
Bonjour Yann, bonjour Michel.
Bonjour.
Ce matin, nous accueillons Jean de Pontcharra.
Bonjour.
Physicien qui a passé 40 ans au commissariat à l'énergie atomique, déposé 8 brevets qui assuraient plus de 100 publications, tant françaises qu'internationales. Je pense que nous allons nous élever dans la discussion.
Bonjour Jean, on est content de vous accueillir. Dites-moi, pendant près de 15 siècles de développement de la science, on peut dire qu'elle s'est faite au sein même de l'Église catholique, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais les papes attirent sans cesse l'attention sur le risque de certaines innovations qui interviennent sans analyse du bienfait pour l'humanité. Alors, moi j'ai une première question. En préparant l'émission, vous avez souhaité ce titre « Science et vérité ». Pourquoi ?
Bonjour Michel. En effet, ce titre me paraît être le point crucial dans une discussion entre science et foi. En effet, comment se positionnent les scientifiques par rapport à la vérité et est-ce qu'eux-mêmes croient que la vérité existe ?
Et en deux mots, qu'est-ce que la science ?
C'est une notion complexe à définir en peu de mots. C'est un ensemble qui se veut cohérent de connaissances relatives à des faits, des objets, des êtres humains et des phénomènes qui sont gérés par des lois. Le point important, ce sont des lois intelligibles, des lois logiques.
Un exemple, vous pourriez nous donner un exemple de...
Par exemple, les planètes et leur mouvement, ce sont des lois qui étaient connues depuis la plus haute antiquité. Les Égyptiens étaient d'excellents astronomes et ils découvraient des lois.
Donc des lois qui sont fixées par la nature, pas des lois qui sont fixées par le Parlement français. Ce sont des lois qui sont imposées à l'humanité.
Voilà. La notion de loi en science, c'est qu'elles existent indépendamment du scientifique ou de l'être humain. Et c'est à lui de les découvrir. Donc ce n'est pas lui qui invente la loi, il doit la découvrir.
Okay. Non, c'est important de préciser ça parce qu'il ne faut pas entendre le terme « loi » par le côté législatif du terme.
En effet.
Ok, très bien. Et donc, au même titre, la vérité, pour un catholique, qu'est-ce que c'est que la vérité ?
La vérité pour un catholique, premièrement, c'est une connaissance qui découle d'un être transcendant. Pour un catholique, ce sera le Christ qui a dit « Je suis la vérité, la voie, la vie ». Pour un scientifique moderne, le problème est beaucoup plus complexe puisque certains militent dans un athéisme ou un anticléricalisme affiché et la notion de vérité transcendante n'est pas évidente ou est même refusée par eux. Donc pour discuter entre scientifiques, on est tous d'accord pour admettre qu'il y a des lois intelligibles, des lois que notre intelligence peut découvrir, peut adapter à nos connaissances. Et c'est beaucoup plus difficile pour la majorité des scientifiques modernes d'admettre qu'il y a une loi transcendante imposée par une révélation divine ou par un Dieu qui est créateur et qui a lui-même créé ses lois.
Et quand vous parlez donc de loi, de vérité, vous faites référence à un ordre naturel qui est voulu par le Créateur, c'est ça ?
Exactement.
Et le scientifique
Exactement.
Cherche à découvrir ces lois.
Exactement. Ceci, évidemment, n'est pas admis par la majorité des scientifiques qui se disent non-croyants, agnostiques, athées, et qui veulent séparer les domaines de la science et de la religion.
Alors tout ça nous bouscule beaucoup, Jean, parce que au XXIe siècle, On peut difficilement penser que l'Église a participé au développement de la science.
C'est cette opinion qui est la plus courante, mais quand on fait l'étude historique des sciences depuis la plus haute antiquité jusqu'au temps moderne, jusqu'au XXIe siècle, on s'aperçoit que le moteur de la science est la recherche de la vérité. Cela allait de soi au Moyen-Âge, ça allait de soi dans l'Antiquité où les sages étaient réputés rechercher la vérité, et ce n'est plus le cas actuellement, puisque les scientifiques ont considéré qu'il y a des vérités différentes, que la science a ses vérités, et qu'on ne peut pas les mélanger avec des vérités transcendantes, qui seraient un frein au développement des sciences. Ce point est très important parce qu'on entend souvent que l'Église était obscurantiste et qu'elle a freiné le développement des sciences au cours de l'histoire.
Alors, je ne sais pas, mais je pense que la poésie, la musique seraient-elles des sciences, auraient-elles leur propre vérité ? On va vérifier ça au cours d'une petite pause musicale, parce que je crois que nous en avons besoin. Eh bien, nous retrouvons cette question, la science, son développement et la quête de la vérité.
Jean, j'aimerais revenir un petit peu sur cette période où le développement de la science était encadré, se passait au sein de l'Église même.
C'est certain, la science est née, la science occidentale, nous parlons de science occidentale, c'est un peu différent pour des sciences en Asie ou au Moyen-Orient. La science occidentale est née au sein de l'Église. C'est l'Église qui a institué les universités, qui a financé, qui a servi de mécène pour les chercheurs et les savants de l'époque jusqu'à une époque très récente. Et les savants et les scientifiques dans tous les siècles du Moyen-Âge avaient le statut de clerc avec des privilèges qu'on trouverait.
Clerc, c'est-à-dire ?
Clerc, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à l'Église sans être ordonnés. Pas forcément ordonnés, certains étaient ordonnés, étaient prêtres, mais certains restaient laïcs.
Donc vous voulez dire que tous les grands noms de la science pendant ces 15-16 siècles, ce sont des noms de personnes qui appartenaient à l'Église ?
Exactement.
Et qui ont participé au développement scientifique de l'humanité. Donc.
Exactement. Mais à l'époque, tout le monde appartenait à l'Église, au Moyen-Âge.
Voilà,
y compris les scientifiques et les chercheurs. Et leur liberté de recherche était extrême, à condition de ne pas mettre en doute des dogmes définis par l'Église et à condition de ne pas présenter des hypothèses non démontrées comme étant la vérité.
Alors on y reviendra, ça, parce que ça me paraît essentiel. Néanmoins, pourquoi l'Église a-t-elle aujourd'hui une image si négative par rapport à la science ?
L'image négative de l'Église a été construite de toutes pièces à partir principalement de l'affaire Galilée, affaire qui n'a toujours pas été résolue, quoi qu'on en dise. Et cette réputation est entretenue par beaucoup de milieux scientifiques qui considèrent une ingérence possible de la religion dans leur science comme inadmissible. Mais c'est leur opinion. En réalité, l'esprit catholique, donc foi et raison, que saint Thomas a élevé à un niveau très haut, et ne sont pas incompatibles. Et la position de l'Église, c'est de dire que foi et science ont la même source qui est Dieu, donc la contradiction entre ces deux entités est impossible. S'il y a contradiction, c'est qu'il y a des interprétations des uns et des autres, et qu'on peut, ensemble, avec des débats constructifs, arriver à résoudre. S'il y a une opposition a priori, le débat devient impossible.
D'où l'importance de la nuance que vous faisiez tout à l'heure avec les hypothèses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a confusion entre découverte scientifique et hypothèse scientifique.
très souvent dans le domaine de la science physique fondamentale. C'est moins vrai dans le domaine de la technique, puisque la technique est un savoir-faire. Donc un savoir-faire fait moins appel à des théories explicatives de du cosmos ou de la présence de l'homme sur la Terre ou du destin de l'homme. C'est plus un savoir-faire. Et on fait souvent la confusion entre science pratique, qui donne la technique, qui donne des développements extraordinaires de la technique, et la connaissance de l'essence des choses par la science. Au Moyen-Âge, c'était l'apanage de la philosophie et de la théologie, qui n'étaient jamais dissociées et qui permettaient à la science, qu'on a appelée ensuite profane, de se développer à la lumière de cette philosophie et de cette théologie. Et actuellement, la science moderne refuse ce schéma.
Et aujourd'hui, donc, avec l'accélération de ces progrès, est-ce que je suis complètement hors sujet si je considère qu'ils se font hors de l'Église ?
Je dirais pas qu'ils se font hors de l'Église. L'Église a une Académie pontificale des sciences, une Académie pontificale de la vie. Elle intervient dans des sujets très importants de morale et de déontologie dans l'activité humaine, que ce soit de la technique ou que ce soit de la science pure ou de la science cognitive ou de la recherche.
Pourquoi l'Église s'oppose-t-elle à des expérimentations comme celles qu'on a aujourd'hui, la PMA, etc. Pourquoi ?
Justement à cause de la vérité transcendante.
Alors, je pense que ça fera l'objet d'une prochaine émission, parce qu'il y a une question qui me brûle la bouche, c'est est-ce qu'on peut être croyant et scientifique ? Mais ça, c'est un...
Michel, vous avez raison de poser la question, puisque des athées et des incroyants affirment qu'on ne peut pas être croyant et bon scientifique.
Alors, je suis désolé, on va être obligé d'arrêter là, mais ça fera l'objet d'une prochaine émission. Merci Jean. Donc, on vient de voir que la recherche de la vérité doit se faire en toute humilité et les scientifiques ne peuvent s'exonérer d'une vérité supérieure au risque, et c'est ça qui est important, au risque de voir le progrès se servir de l'homme et non plus d'être à son service.